Louez et remerciez soit le Seigneur de ce que nous ne chantons pas seulement, mais de toute la conviction, nous pouvons le dire. Particulièrement, je pense, c'est au troisième couplet. Le futur est dans... Le rayon de la lumière, alléluia, seulement par la grâce de Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Frère Branham, une fois on lui a posé la question, en ce qui concerne le futur, il a dit, je suis très détendu, car je connais celui qui tient le futur entre ses mains. Et il ne tient pas seulement le futur entre ses mains, il te tient et il me tient fermement à sa main droite et il ne nous laissera pas. Au contraire, bien au contraire, nous atteindrons le but, nous conserverons la foi jusqu'à la fin et par la grâce de Dieu, nous serons couronnés. Car c'est ainsi que c'est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Vous savez sûrement que dans la dernière lettre circulaire, j'ai encore décrit l'année 84 comme une année qui viendra et qui passera comme les autres. Mais malgré tout, je suis convaincu que nous sommes très proches du retour du Seigneur et que aussi dans l'année qui arrive, les événements prophétiques vont s'accomplir, prendre forme et les prophéties bibliques, les prédictions bibliques s'accompliront, mais les prédictions de certaines personnes-là ne s'accompliront pas parce qu'elles ne sont pas bibliques et elles n'ont aucun et Dieu n'a aucun contrat avec eux. Dieu n'a qu'une seule alliance qu'il a faite dans le Nouveau Testament et cette alliance contient tout ce qui est écrit. Pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu a dit. À cela, c'est à cela qu'il est lié et c'est aussi ce qu'il accomplira sans que d'une manière particulière nous ayons besoin de nous faire des soucis pour ça. Donc nous allons avec assurance dans le futur. Laissez-moi lire une parole dans 2 Corinthiens, le premier chapitre, à partir du verset 3, avant la prière, de Corinthiens 1, verset 3, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Nous voulons prier, nous voulons nous lever pour la prière. Père céleste, de tout notre cœur et dans la crainte, avec le profond respect, je te remercie en cet endroit pour toutes les bénédictions de cette année qui vient de passer, ou bien qui va vers sa fin. Tu as conservé tes mains protectrices sur nous, pleines de grâce et comme un père. Tu nous as gardés et pour cela, nous te remercions. Dieu fidèle, que tu puisses, par cette réunion de la fin de l'année, nous conduire, me conduire, nous conduire. Reçois ce qui te revient de plein droit. Relève ceux qui sont courbés. Console ceux qui sont affligés. Viens leur en aide par des paroles de consolation. Ceux qui sont dans les doutes, dans le désespoir, sauve ceux qui sont encore perdus, guéris ceux qui sont malades. Baptise d'esprit et de feu, scelle, oui, achève-nous par ta grâce et prépare-nous pour ton retour, ô Dieu. Nous te remercions ensemble pour cet endroit. Nous te remercions pour le privilège de ce que nous pouvons, dans la liberté, prêcher ta parole. Nous te demandons, bénis aussi la direction de cette maison. Seigneur, c'est une maison du peuple, une maison populaire, et nous, en tant que ton peuple, nous sommes ici rassemblés durant déjà tant d'années. Ô Dieu, au ciel, que tu puisses, en ce jour, d'une manière très particulière, accorder la certitude de la foi à tous ceux qui sont ici profondément dans leur cœur. Seigneur, que chaque doute, chaque incrédulité et tout ce qui pourrait se tenir en obstacle dans notre vie puisse être ôté pour que tu fasses quelque chose de nouveau, tout à fait nouveau avec nous et en nous, pour que tu puisses créer quelque chose de nouveau. Nous te remercions pour ton sang, pour ta parole et pour ton esprit. Et nous te demandons, ô Seigneur, que ces trois ensemble puissent rendre témoignage parmi ton peuple, que le sang puisse produire l'effet voulu par toi, exécuter ces choses, et ainsi aussi que la parole et l'esprit puissent aussi exécuter l'effet voulu par toi. Que rien ne manque dans toute sa plénitude, que tout dans sa plénitude soit présent dans le cœur de ton peuple, toi le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de tous les prophètes, le Créateur du ciel et de la terre. À toi, le seul vrai Dieu, nous disons reconnaissance par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Vous avez sûrement déjà vu qu'aujourd'hui, nous allons avoir le souper du Seigneur. Je voudrais à cela, après, tout à l'heure, lire quelques écritures là-dessus. Tous ceux, tous les frères et les sœurs, remettent bien sûr leur salutation très, très fraternelle. Et avec cela, je voudrais ici remettre la salutation de tous les croyants de ces pays. Je voulais avoir remis les attentes de tous ces frères et sœurs dans tous ces pays et je leur ai promis que nous penserons à eux dans nos prières. Et cela ne sera sûrement pas difficile pour nous. Les requêtes d'autres, de les apporter devant le trône de Dieu, prouvent que nous faisons le service des sacrificateurs et que nous sommes vraiment des sacrificateurs. Pas des gens qui parlent seulement de ces choses, mais qui vraiment, dans la prière et dans la supplication, apportent devant la face de Dieu, devant le trône de Dieu, les requêtes des autres. Chacun peut parler, mais on doit apprendre à prier, mais prier, on doit l'apprendre. Et ça, nous ne pouvons pas nous l'enseigner l'un à l'autre ou bien l'apprendre l'un à l'autre. Les disciples l'ont dit une fois, Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples, apprends-nous à prier. Et donc, courtement, il a seulement touché les points importants d'une prière que nous devons apporter devant le trône de Dieu, il a dit aux disciples. Et dans cette prière de notre Père, tout est contenu, en fait. Que ton règne vienne. Oui, qu'est-ce que nous voulons de plus? Qu'est-ce que nous demandons d'autre chose? Qu'est-ce que nous avons encore à demander d'autre chose? Nous sommes dans le royaume de Dieu et nous intéresse seulement, presque, je dis très clairement et ouvertement, hein, pas ce qui nous intéresse, pas ce qui se passe dans l'Allemagne fédérale, mais ce qui se passe dans le royaume de Dieu, c'est ce qui nous intéresse. Nous sommes une partie du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu va au-delà de toutes les frontières nationales. C'est un royaume spirituel que le Seigneur a établi parmi les siens et il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes, ou bien alors, je suis particulièrement reconnaissant au Seigneur de ce que cette année, j'ai pu la terminer avec tout un nombre de voyages. Vous savez, je suis revenu de fin novembre de l'Inde et fin octobre du Pakistan. Et au Proche-Orient, j'ai été aussi. Et vu tristement, j'aurais préféré être resté à la maison. Mais l'appel de Dieu dans le cœur de partager la parole de Dieu avec tous ceux qui veulent l'écouter est tellement fort que dans toutes mes faiblesses corporelles, j'ai été fortifié, encouragé pour, au nom du Seigneur, continuer à aller de l'avant. Et c'est ainsi que je crois que avec une bonne conscience, avec toute la bonne conscience, nous pouvons dire en ce qui concerne la propagation du message divin, de porter dans le monde la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée et déterminée pour ce temps. En ce qui concerne cela, c'est une année qui, avec la bonté et la grâce de Dieu, était couronnée. Beaucoup de nouvelles portes se sont ouvertes, beaucoup de nouveaux pays j'ai pu visiter, et il y avait Taïwan, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, la Jordanie, l'Égypte. Il y avait tout un nombre de pays que j'ai pu visiter cette année, dans lesquels, auparavant, je n'avais jamais prêché. Et pour cela, je suis reconnaissant de tout mon cœur au Seigneur qui a ouvert de telles portes et qui a permis tout cela. Des invitations dans la région du Golfe, au Koweït et dans d'autres villes, à Beyrouth, et tout ce qui existe là-bas comme peuple et ville sont encore là. Le temps est le seul problème que nous avons. Mais Dieu prendra soin pour tout. Il y a un frère en ce moment en Angleterre qui vient de Bagdad. Et il fait qu'attendre de recevoir la nationalité anglaise pour pouvoir, avec ce passeport, justement aussi pouvoir voyager dans tous ces pays-là. Et ce frère, je voudrais bien le prendre avec moi dans mes voyages, car il parle la Syrie. Et ça, c'est la langue qui est parlée là-bas, non pas seulement la langue qui est parlée en Syrie, le syrien, mais la syrien. Et donc, ainsi, nous pourrions aller dans tous ces pays ensemble. Et comme ça, il pourra traduire et ensuite dans les autres pays, là, je pourrais le faire en anglais. Que vous le compreniez ou pas, je préfère prêcher en anglais. Je préfère prêcher en anglais qu'en allemand. Beaucoup plus en anglais. Et cela vient sûrement de ce que toutes ces prédications de frère Branham en langue anglaise, je les ai écoutées en langue anglaise, en anglais, et cela est devenu en moi donc chair et sang. L'allemand est aussi en moi chair et sang, mais c'est une langue sec, elle n'apporte pas grand-chose. L'anglais, c'est vrai, n'est pas exact, mais elle a du poids dans chaque phrase et chaque mot. Et ainsi, nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il y a eu un temps dans la Grande-Bretagne, un temps dans lequel la Grande-Bretagne était un demi-empire mondial. Et ainsi, cette langue a été apportée dans le monde entier pour qu'aujourd'hui, nous ayons la possibilité presque dans chaque pays de la terre, n'est-ce pas, de parler et avec l'anglais, d'apporter la parole en anglais. Et partout, dans tous les pays, il y a des hommes qui peuvent traduire de l'anglais dans leur langue. Même à Moscou, j'ai prêché en anglais et le traducteur était fantastique. Sa mâchoire fonctionnait comme ça, incroyablement. Il faisait qu'attendre la prochaine phrase pour pouvoir la traduire. Fantastique. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants au Seigneur, très reconnaissants au Seigneur en tout. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce qui se passe en moi et que vous puissiez avoir part à ce que je ressens, pas seulement par le soutien financier ou bien par la prière, par vos prières, mais que vous puissiez avoir part et devriez avoir part aussi à la joie et aux bénédictions et à ce que Dieu fait dans le monde entier. Je l'ai déjà dit ici, alors que la dernière fois, c'était quand je revenais en octobre, alors que ce frère de Damas en vol était venu à Amman et me disait, j'étais à Londres et j'ai entendu là-bas que tu es ici, alors viens une semaine en Syrie. Un homme qui est patron d'une société qui imprime la Bible, société biblique du pays là-bas, il supplie et il me demande de venir là-bas pour prêcher la parole de Dieu. Je ne sais pas, mais Dieu voulant, si le Seigneur le veut, et qu'au Proche-Orient, il n'y a rien de mal qui se passe en ce moment, donc en janvier, j'irai en Syrie, et peut-être dans d'autres pays voisins, ou bien alors en Grèce, et comme cela va être conduit, priez pour que la volonté de Dieu se fasse dans tous ces voyages. Moi-même, plusieurs fois, très sincèrement, j'ai dit au Seigneur, entièrement sincèrement, Seigneur, j'ai fait assez. je veux arrêter. Prends qui tu veux, je vais le soutenir avec tout ce qui est en moi. Mais jusqu'à maintenant, le Seigneur ne m'a pas encore exaucé. Et c'est ainsi, tant qu'il ne m'exauce pas, je dois continuer. En fait, vous pouvez ressentir avec moi, si je vous dis que hier, j'ai atteint l'âge d'un demi-siècle, alors vous pouvez comprendre que je ne suis plus l'un des plus jeunes. Donc revenons aux Écritures, aux Saintes Écritures. Pour nous, les exposés sont, donc nous fortifient, nous encouragent, elles produisent en nous de la reconnaissance, des comptes rendus, des voyages, mais la prédication de la parole de Dieu reste, demeure jusqu'à la fin, l'alpha et l'oméga de notre ministère. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et c'est avant que je commence ici, si je peux me permettre cette remarque, une précieuse sœur qui est assise ici parmi nous aujourd'hui m'a donné la dernière fois un article d'un journal religieux. Et là, il était écrit dans ce journal que nous sommes sauvés par un sang juif. Et à quelqu'un qui a contesté cela pour dire que Jésus n'est pas juif, mais le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les rois, Dieu manifesté dans la chair, et la défense de cet homme a malgré tout ramené les choses à ce que, vu tristement, justement, cela a été donc conclu que Jésus aurait été un juif, malgré qu'il aurait défendu cette théorie. Je voudrais me permettre de lire, avant de commencer, une parole dans Actes des Apôtres, chapitre 20, et pour vous dire de la parole de Dieu quel sang a coulé ici pour notre salut. Je lis dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Actes apôtres 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Pour paître l'épître, ici c'est écrit l'église du Seigneur dans sa Bible en Mengue, la plupart des traductions disent pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Qu'il soit écrit ici Seigneur ou Dieu, c'est pareil. Le Seigneur est Dieu et Dieu est le Seigneur. Il n'y a pas une seule écriture, un seul verset biblique qui dirait que Jésus était le fils de Joseph. Chaque verset biblique dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et cela reste comme ça, ainsi valable. Si ce n'était pas ainsi, alors lui-même, il aurait eu besoin du salut, d'être sauvé. S'il n'était pas né tel qu'il est né, comme les Saintes Écritures, dans Luc 1 particulièrement, aussi dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, Matthieu 1, verset 18, et Luc 1, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est ainsi, c'est peut-être la raison que ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ce n'était pas une action humaine. Et frère Branham le dit, je m'excuse si je le dis ici, je le répète ici librement. Marie n'a absolument rien ressenti. C'était un engendrement divin, sans réaction humaine. C'était la parole de Dieu qui lui avait été adressée et qui a été placée en elle. Et le Saint-Esprit a en elle vivifié cette parole. Ça, nous croyons ça de tout notre cœur. Le Saint-Esprit a créé la vie en elle par la parole qu'elle a reçue. Dieu n'a pas fait ici du n'importe quoi. Le n'importe quoi a été fait dans le jardin d'Éden. Et ça, c'est l'ennemi qui l'a fait. Dieu, lui, il a fait une chose sainte. Et nous savons que Jésus-Christ est saint. Son sang, sa vie, ses pensées, sa parole, son esprit et tout sont absolument saints. Chaque autre pensée est à rejeter parce que ces pensées viennent de l'ennemi et conduisent à ce que on méprise notre Seigneur. Non. De ce que il devait devenir semblable à un homme et paraître comme un vrai homme, cela a eu lieu à cause de nous pour que nous puissions en retour porter l'image du céleste. Parce que lui, le Seigneur des Seigneurs, a revêtu une forme humaine pour pouvoir accomplir notre salut et la rédemption. Et par cela, par cette œuvre accomplie, nous avons la possibilité, en tant que fils et filles de Dieu, d'être ramenés dans l'état divin en tant que fils et filles de Dieu, transformés à l'image de Dieu. Jean le dit, il n'a pas encore été manifesté ce que nous serons, mais quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Nous lui serons semblables. De naître, la naissance de l'Église épouse dans ces jours doit avoir lieu de la même manière. Pas de mélange, pas de sensation humaine, de ressentiment, pas d'atmosphère créée de la plateforme, mais la parole de Dieu qui descend du ciel et qui est implantée en nous pour que le Saint-Esprit puisse recevoir la relation à cette parole pour pouvoir la produire, la reproduire. Le Saint-Esprit n'est pas dépendant de ce que nous ressentons. Beaucoup, n'est-ce pas, ont bâti sur des sensations. Et nous le voyons particulièrement aujourd'hui dans le mouvement charismatique pentecôtiste. Oui, il y a du mouvement, il y a des sensations, il y a des témoignages, mais il n'y a pas de parole. Et là où il n'y a pas de parole, là il n'y a pas de semence. Et là où il n'y a pas de semence, là rien ne peut être récolté. Ça, nous allons encore comprendre tout cela quand l'heure de Dieu aura frappé, sera venue. Je l'ai dit plusieurs fois, parfois, on pense que nous recevons le message à la fin d'un temps et nous en réjouissons, c'est vrai. Mais est-ce que nous sommes conscients de la différence entre avoir le message et ne pas l'avoir et ce qui en dépend? Et quelles sont les dernières conséquences de ces choses? Je ne sais pas si vraiment on a saisi cela, si nous l'avons ou pas. Il y a une chose que dans la foi, je veux dire. Le Dieu Tout-Puissant qui jusqu'à maintenant nous a conduits et nous a dirigés. Jusqu'à la fin, il continuera à le faire. Il a commencé, il achèvera. Et le message divin de restauration a fait que précéder la restauration elle-même pour attirer la réalité de ces choses à soi et à la fin, l'Église du Seigneur se tiendra telle qu'elle s'est tenue au commencement. Je voudrais lire quelques écritures qui sont liées au souper du Seigneur. D'abord, de Matthieu, chapitre 26. Et retenons cette pensée. C'était le sang saint divin qui sur la croix à Golgotha a coulé pour nous racheter. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père, avec vous. Cela sera un jour glorieux. Tous ceux qui ont été inclus dans cette alliance divine avec Christ, qui de tout leur cœur croient que là-bas, le sang de la réconciliation, du pardon a coulé, et le sang de la nouvelle alliance, tous ceux qui de tout leur cœur ont donné leur oui à cette alliance, ont accepté cette alliance, et ainsi sont devenus des disciples de Jésus-Christ, des gens qui suivent le Seigneur réellement. C'est à eux et à cela, à nous qui ont la grâce d'être ici aujourd'hui, que ces paroles-là sont valables. Je boirai du nouveau, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai avec, du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, ici, nous pouvons fêter le souper, pas seulement en tant que symbole, mais cela nous touche le cœur et l'âme de ce que notre Seigneur et Sauveur sur la croix à Golgotha a laissé sa vie, a donné sa vie et a répandu sa dernière goutte de sang. Et comme dans Hébreux, il est écrit, avec son propre sang, il est entré dans le sanctuaire céleste pour que le sang de la réconciliation soit apporté sur le trône de la grâce, soit sur le trône de la grâce, et c'est là-bas qu'il intercède pour nous tous. En mourant, il l'a prié pour ceux qui avaient péché, qui blasphémaient, etc. Il disait, pardonne-les, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais depuis qu'il est entré dans la gloire, il intercède pour tous ceux qui, sous le couvercle du sang, et avec cela, sont donc dans la rédemption, se tiennent dans la rédemption par le sang. Il va, c'est pas aujourd'hui qu'il va sauver, il a sauvé. Nous sommes le trésor de Dieu, l'appartenance de Dieu, l'héritage de Dieu, au moment où le sang de l'agneau sur la croix à Golgotha a coulé, c'est là que nous avons été sauvés et que nous lui appartenons. Continuons à lire, et cela de Colossiens, l'épître aux Colossiens. Colossiens 1, à partir du verset 8. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. En allemand, il nous a appris concernant l'amour que l'Esprit a produit en vous. Au verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence produite par l'Esprit, en allemand. Donc, sagesse et intelligence spirituelle. Spirituelle. Alors, si nous voulons souligner ici ces trois pensées et si nous voulons les relever. La première, il est parlé d'être animé par l'amour de l'Esprit. Donc, l'amour que l'Esprit produit en nous pour que nous puissions en être animés. Donc, il y en a vraiment qui pensent être plein d'amour. Et ils ont cet amour qui vient de leur maison et qu'ils ont apporté avec eux de la maison. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, ça, c'est un amour tout à fait normal qui ressent avec les douleurs des autres, avec les autres. Mais ici, il s'agit de plus, il s'agit de l'amour, d'être animé de l'amour de l'Esprit, que l'amour que l'Esprit a produit en nous. Et il s'agit ici de la communion de l'Esprit, comme c'est écrit dans Philippiens 2, qui donc va au-dessus de toutes les communion humaine et qui unit et lie dans un amour parfait le peuple de Dieu les uns avec les autres, justement dans cet amour que produit l'Esprit de Dieu. J'ai dit à Johannesburg avant de prendre le vol aux frères avec lesquels j'étais là-bas, un peu de cette dans ces mots suivants. Bien mes frères, le même amour de Dieu qui est venu du ciel, est descendu sur cette terre et qui a été manifesté dans notre Sauveur. Le même amour de Dieu, c'est le même qui nous unit les uns avec les autres en tant que rachetés, sauvés et nous conduit dans le pardon parfait et la réconciliation parfaite et ensuite nous enlèvera dans la gloire. Cet amour nous unit les uns avec les autres et avec Dieu. C'est l'amour de Dieu qui vient à nous. C'est l'amour de Dieu qui nous ramènera à Dieu par l'enlèvement. Mais il faut qu'il soit manifesté ici, en nous et parmi nous, avant le départ. Pas ta justice et ma justice, mais l'amour de Dieu. Donc, Dieu a tant aimé le monde. Ici, il est écrit ensuite, c'est pour cela, verset 9, que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ici, il ne s'agit pas d'une nouvelle connaissance qui peut être apportée au marché. Mais ici, il s'agit de reconnaître par l'éclaircissement divin ce qui se passe dans le royaume de Dieu maintenant, ce qui doit arriver dans le royaume de Dieu en accord avec son plan, car Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Donc, c'est une différence éloignée du ciel et de la terre entre ce que les hommes ont comme connaissance et donc leur connaissance les enfle. Et il y en a que quand, avec des yeux spirituels, on peut les voir, ils ressemblent réellement à un ballon, mais avec la différence qu'un ballon qui a deux pieds et qui marche. Et s'il est dit, car il est encore écrit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc, les connaissances terrestres que quelqu'un a restent dans sa tête et produisent des dégâts. partout, mais la connaissance de sa volonté. Être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence que produit l'Esprit de Dieu. Donc spirituel, pas ta connaissance et ma connaissance, être rempli dans ton intelligence et dans ta sagesse, et dans... mais la sagesse et l'intelligence spirituelle. Donc, rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, animé par l'amour de l'Esprit en toute sagesse et intelligence spirituelle, que cela soit notre prière à tous, ma prière et notre prière à tous. Sans ces choses dans leur réalité, dans notre vie, nous ne pourrons jamais atteindre le but. Ensuite, au verset 14, de nouveau faisons mention au souper du Seigneur, Colossiens 1, verset 14, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. La rédemption en qui nous avons le pardon des péchés par son sang, en allemand par son sang. Au verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, car en lui, verset 16, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Ensuite, il est écrit au verset 18, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois... Donc, il finit de lire le verset 20. Par le sang de sa croix. Donc, à Golgotha, tout, par la grâce de Dieu, a eu lieu. La réconciliation, le pardon. Et celui qui vraiment a reçu ces deux choses et a expérimenté ces deux choses, réconciliation et pardon, il a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que même si le monde entier est dans l'inimitié et manque de paix, et dans... nous croyons que nous ne nous, nous laissons pas surmonter par l'esprit de ce siècle, par l'esprit de ce monde, et emportés par le manque de paix comme c'est dans le monde, mais que les vrais enfants de Dieu ont une résistance automatique qui est en eux contre tout ce qui n'est pas de Dieu, et pour pouvoir avoir ensuite part à ce qui vient de Dieu. De l'épître de Pierre, je voudrais encore lire 1 Pierre, le premier chapitre, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Saignez les reins de votre entendement, en allemand. Achevez votre préparation. Verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, verset 15, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez, selon son modèle, saint dans toute votre conduite, dans toute votre marche, en allemand, marche, conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge, selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez, verset 18, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais racheté par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant même la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose en Dieu. En allemand, votre foi est aussi une espérance qui se repose sur Dieu. Donc, notre foi n'est pas comme ça dans une pièce, comme ça dans l'air. Elle n'est pas dépendante du temps ou des circonstances ou bien de ce que je dis, tu dis, je fais, tu fais. La foi qui doit être telle que dit les Écritures, elle est seulement dépendante de ce que Dieu, dans sa parole, nous a dit. Et ça dépend justement que nous puissions croire justement ce qui est écrit de tout notre cœur. Si nous devrions nous efforcer pour croire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça voudra dire que dans notre cœur, cela n'a pas encore une étincelle, c'est pas, le feu, ce n'est pas encore allumé. Ça veut dire que nous sommes allés sans avoir la liaison, sans que la liaison soit là. Que Dieu puisse en toi et en moi et en nous tous le produire, que par la foi, nous puissions vraiment entrer dans le repos de Dieu et que tout manque de repos, tout manque de certitude, d'assurance, puisse avoir une fin, puisse cesser et que nous puissions nous reposer en Dieu qui, par Jésus-Christ, nous a sauvés, nous a rachetés, nous a pardonnés, nous a réconciliés, nous a fait grâce et a fait de nous des enfants de Dieu. On ne peut pas d'un côté croire et puis en même temps ne pas croire. Une fois dire, peut-être que je suis sauvé ou bien peut-être que je suis perdu. Peut-être que je suis sauvé, peut-être que je suis perdu. Non. Prends Dieu au mot. Il n'y a pas de peut-être. Ce n'est pas un homme qui nous le dit. Si le Seigneur pouvait se tenir ici devant vous visiblement, il vous dirait exactement tel qu'il a laissé écrire ça ici, il a dit par la bouche, par ses apôtres. Pensez-vous qu'il y aurait un seul chapitre ou un verset qui changerait s'il était ici aujourd'hui, comme c'est écrit ici dans la Bible? Non, il ne changerait rien du tout. Le même esprit qui par les prophètes parlait et qui se reposait sur Christ et qui était avec lui et qui ensuite s'est répandu sur l'Église et a aussi établi sa demeure dans notre cœur. Le même esprit rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, versets 16 et 17. Et nous n'avons pas besoin de nous efforcer à le croire, car nous le sommes par la grâce de Dieu. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu et cela n'est pas venu de nous. Nous l'avons cru, reçu et expérimenté une fois pour toutes. Christ avait été prédestiné avant la fondation du monde à mourir pour nous. Et souvent, nous avons eu dans les prédications le frère Branham, on a reçu cela de sa part, dit en insistant qu'avant même la fondation du monde, nous avons été prédestinés. Seulement pour prendre, pour citer un verset, Éphésiens 1, verset 4, verset 3 et 4, les deux. Le sauveur et les rachetés, les deux étaient avant même la fondation du monde, dans le plan du salut de Dieu. Et c'est pour cette raison que sauveur et racheté, rédempteur et les rachetés vont ensemble. C'est la même parole, c'est le même esprit. Et ils ont la même vie, reçu le même amour de Dieu. Ils ont reçu la même vie de Dieu, la vie de Dieu. Nous voulons faire comme Abraham. Il a vu et il a considéré ce qui était terrestre. Quoique c'était perceptible pour lui, il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité, voyant malgré tout l'état de son corps et celui de sa femme. Et je dis, parce que la parole n'était pas dans sa tête, la parole de la promesse divine était dans son cœur. Et c'est pour cette raison qu'il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité, mais il faisait confiance que celui qui a donné la promesse est aussi capable de l'accomplir et qu'il va l'accomplir sans considérer combien de temps cela durera. Dieu ne vient jamais trop tard. Nous voulons venir directement à l'introduction directe du souper, lire ces paroles de 1 Corinthiens, le chapitre 10, et aussi 1 Corinthiens, chapitre 11. Et je voudrais demander que plusieurs frères puissent ensuite venir devant pour rompre le pain et le partager, et aussi en ce qui concerne les coupes. Sentez-vous libres, bien mes frères, de venir devant. D'abord 4 frères, et nous allons voir si encore d'autres frères sont nécessaires. 4 frères, venez devant, s'il vous plaît. De 1 Corinthiens, le chapitre 10, je lis à partir du verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Mais bien aimé, ça ici, ce sont des paroles très profondes et très sérieuses. Nous avons affaire avec la communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu a été rétablie sur la croix à Golgotha, alors que le sang coula ici pendant que nous fêtons le souper. Et prenons le pain et buvons de la coupe. Nous confessons par cela avec tout notre cœur que nous sommes réconciliés avec Dieu et que nous avons communion avec Dieu. Nous confessons cela par cela, que nous avons communion avec Dieu. C'est peut-être dans que nous fêtons le souper du Seigneur. Donc, lisons encore cela ici. Il est d'une très grande signification. La coupe de bénédiction que nous bénissons, le verset 16, n'est-elle pas la communion au sang de Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Parce qu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Qu'est-ce que, bien-aimés frères et sœurs, cette parole, ce verset a à vous dire? Ici, il n'est pas seulement parlé du corps de Christ qui a été meurtri, frappé, crucifié, blessé. Ici, l'Église rachetée en tant que le corps qui est constitué de plusieurs membres est adressé, est montré. Et ici, si notre Seigneur disait, tu m'as formé un corps, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Alors, maintenant, le corps, c'est l'Église sur cette terre pour que dans l'Église, la volonté de Dieu soit faite. Personne ne sera capable d'exprimer ses profondes pensées de Dieu et de les exprimer et les annoncer comme ça devrait l'être. Personne ne pourrait le faire ici, les pensées profondes de Dieu. C'est la communion avec le sang et avec le corps de Jésus-Christ. Et là, nous voyons maintenant le corps du Seigneur racheté qui est aussi déterminé à être en communion avec Dieu et déterminé à être en communion avec Dieu. Notre communion ne consiste pas à ce que terrestrement, comme cela est dit, nous soyons sur les mêmes ondes. Nous sommes sur les mêmes ondes. Non, non, non. Notre communion est une communion avec Dieu. Et cette raison que elle a son origine en Dieu, dans l'Esprit de Dieu. Et elle ramène là où elle a été établie, c'est-à-dire où elle a été établie, c'est-à-dire là sur la croix à Golgotha, où elle a été rétablie, c'est là sur la croix à Golgotha. C'est peut-être un constant de ce cœur. Glorieux Golgotha, Golgotha, glorieux Golgotha, mes péchés sont pardonnés, mes fautes sont payées. Glorieux Golgotha. Bien-aimés amis, bien-aimés frères et bien-aimés sœurs. De remettre cela en question, c'est de l'incrédulité. Celui qui remet en question l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha, en doutant, par le doute, ça veut dire qu'il a de l'incrédulité dans son cœur et il n'a pas de foi. Aujourd'hui, nous voulons croire et dire, Seigneur, aide notre peu de foi, notre incrédulité, notre manque de foi. Il sait comment nous sommes faits, de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes de chair, sans secours, sans secours faible. C'est pour cette raison qu'il est notre secours, notre conseil, notre espérance. C'est pour cette raison qu'il est devenu tout en tout. Et cela par Golgotha pour nous. Alléluia. Loué et exalté soit son nom. Si aujourd'hui, nous prenons le pain, alors le premier regard, nous le fixons à Golgotha, au crucifié, en prenant le pain. Et la deuxième chose, à nos frères et à nos sœurs autour de nous, qui aussi par le sang ont été rachetés, sauvés. Et en tant que membres du corps de Christ, en tant que membres du corps, ont été joints dans le corps. Pouvez-vous croire cela? Aussi vrai que Jésus, Christ, corporellement mouru, est mort. C'est aussi vrai aussi, aussi certain aussi, qu'il a une église ici sur cette terre qui est son corps, constitué de plusieurs membres. Et nous voulons toujours plus être un corps du Seigneur qui fonctionne, qui peut utiliser, un corps qui peut utiliser en tant que la tête. C'est à cela que le désir de nos cœurs va, pas seulement de la connaissance, pas seulement être animé de la connaissance de l'Esprit et animé de la foi que l'Esprit produit en nous, mais que ces choses deviennent une réalité. Réalité. Pas seulement être rempli de la connaissance de ces choses en sagesse et intelligence spirituelle, mais qu'elles deviennent une réalité. Que nous ayons vraiment accepté tout ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Le plein pardon, la pleine réconciliation, le plein salut, c'est accompli. Le rideau s'est déchiré, le voile et le chemin est inauguré, est libre à Dieu et à son trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher avec assurance. Bien mes frères, vous pouvez vous approcher de la table, prendre le pain, le rompre. Et nous lisons ces versets ici. 1 Corinthiens 11, verset 23. 1 Corinthiens 11, verset 23b. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Levons-nous tous. D'abord, remercier le Seigneur et la nouvelle alliance en mon sang. Levons-nous que le frère qui est à côté du micro, là-bas, prenne le plateau avec le pain et remercie.